Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, au soir de l'ultime journée de la Convention nationale républicaine, le président Donald Trump a formellement accepté lors d'un discours sa nomination comme candidat du parti pour le scrutin du 3 novembre et déclaré qu'une victoire de son rival démocrate Joe Biden aurait pour conséquence d'exacerber les crises secouant le pays, les tensions raciales et la crise sanitaire. Devant une large foule rassemblée dans les jardins de la Maison-Blanche, M. Trump a attaqué jeudi soir M. Biden alors que les républicains ont prévenu que l'Amérique deviendrait anarchique et dangereuse si le démocrate remportait l'élection de novembre. Nous y reviendrons plus en détail dans cette édition avec Yacouba Ouédraogo. Inculpation pour meurtre de Kyle Rittenhouse, l'adolescent de 17 ans arrêté après la fusillade qui a fait 2 morts et 1 blessé mardi soir à Kenosha dans le Wisconsin, en marge de manifestations contre les violences policières. L'affaire Jacob Blake, un Africain-Américain grièvement blessé par un policier blanc dimanche dans cette ville, a rallumé les braises de la colère antiraciste aux États-Unis, provoquant manifestations et boycott du monde sportif. Au Mali, la junte au pouvoir, depuis une semaine, a annoncé avoir libéré jeudi l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elle a renversé après 7 années à la tête de ce pays en guerre contre les djihadistes. Les dirigeants de la CEDEAO doivent se réunir en sommet ce vendredi pour décider, après de premières sanctions, d'augmenter ou non la pression sur la junte. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié, chef du principal parti d'opposition, et Pascal Affi-Nguessan, ancien premier ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont déposé jeudi leur candidature à l'élection du 31 octobre face au président sortant Alassane Ouattara, qui brigue un 3e mandat. Et des partisans de M. Gbagbo ont annoncé vouloir déposer sa candidature. Les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger ont fait 45 morts et plus de 226 000 sinistrés, alors que plusieurs quartiers de Niamey, la capitale, sont engloutis par les eaux, ont indiqué jeudi les autorités. Les régions les plus touchées sont Maradi, centre-sud, Taoua et Tillabéri-ouest et Dosso, sud-ouest et Niamey. L'épidémie de coronavirus a désormais fait plus de 180 000 morts aux États-Unis selon des données disponibles jeudi, alors que de nouveaux foyers apparaissent dans le Midwest, même si la situation semble globalement s'améliorer sur le plan national. Si l'évolution des données quotidiennes sur les cas, les décès et les hospitalisations est favorable au niveau de l'ensemble du territoire américain, les experts sanitaires craignent néanmoins une recrudescence de l'épidémie avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne, propice au rassemblement en intérieur. Le nombre de cas confirmés de contamination dans le pays dépasse désormais 5,8 millions. L'ouragan Laura, l'un des plus violents à avoir jamais frappé la Louisiane, a fait au moins 6 morts dans le sud des États-Unis, mais moins de dommages que redoutés. Le gouverneur John Bel Edwards a souligné que son État avait échappé aux ravages catastrophiques annoncés. Et son homologue du Texas, ce pays voisin, Greg Abbott, a déclaré que la montée des eaux n'avait pas été aussi importante qu'initialement prévue, et il a ajouté que les évacuations ordonnées dans les zones côtières avaient probablement permis de sauver de nombreuses vies. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. suite de nos informations, le président américain Donald Trump a accepté la nuit dernière dans les jardins de la Maison-Blanche, en clôture de la convention républicaine, l'investiture de son parti comme candidat à un second mandat. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism.
Mes compatriotes ce soir, avec un cœur plein de reconnaissance et un optimisme sans limite, j'accepte cette nomination pour la présidence des États-Unis.
C'est ce qu'a lancé Donald Trump devant un parterre d'un millier d'invités. Face à la pandémie de coronavirus qui secoue les États-Unis, il a réitéré son affirmation selon laquelle la Chine est responsable de la pandémie. Le président américain a promis de terrasser le COVID-19 avec un vaccin cette année et si possible avant la fin de l'année. Il a annoncé que des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles. Depuis plusieurs jours, la ville de Kenosha, dans le Wisconsin, où un jeune afro-américain, Jacob Blake, a été grièvement blessé par des policiers, est le théâtre de manifestations et de violences. Si le Parti démocrate veut se ranger du côté des anarchistes, des agitateurs, des émeutiers, des pilleurs et des brûleurs de drapeaux, c'est leur problème. Mais en tant que président, je m'y refuse, a affirmé Donald Trump. Monsieur Trump a demandé à ses concitoyens de choisir le 3 novembre entre le rêve américain qu'il dit incarner, vantant son bilan et un socialisme destructeur qu'il attribue aux démocrates. Nous allons reconstruire la plus forte économie de l'histoire, a promis Donald Trump. Des feux d'artifice ont illuminé le centre de Washington à la fin de son discours.
Au Mali, 4 soldats ont été tués et 12 autres blessés jeudi près de Mopti dans le centre du pays, dans une embuscade imputée aux djihadistes. L'armée dit avoir riposté avec l'intervention de moyens aériens qui a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes. Mohamedou Houmfa nous en dit plus.
Selon les informations communiquées par la gendarmerie malienne, c'est un convoi de 13 camions et camions-citernes qui est tombé dans une embuscade entre Kona et Douentsa. Ces camions étaient escortés par une section spécialisée dans la lutte contre le braconnage. Des hommes ont ouvert le feu après que l'un des véhicules du convoi a été touché par un engin explosif improvisé. Plusieurs véhicules ont été détruits dans l'attaque. La riposte de l'armée malienne est intervenue peu de temps après à travers des moyens aériens non précisés. Selon l'armée, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, 2 pick-up récupérés et une dizaine de motos détruites. C'est la deuxième fois que les forces de sécurité maliennes essuient des pertes aussi lourdes depuis que les militaires ont pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État le 18 août dernier. 4 soldats maliens avaient été tués samedi par l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule.
En République démocratique du Congo, la police annonce avoir démantelé un campement de malfaiteurs dans un quartier populaire de Kinshasa. Des échanges de tirs ont été entendus à Kinshasa durant l'opération. Le point avec Eddie Isango.
Le numéro 1 de la police de la province capitale de la RDC indique que 23 personnes ont été arrêtées au quartier Kingabwa à Limété. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasungo affirme que les enquêtes se poursuivent pour retrouver le reste de la bande et les commanditaires de cette entreprise. Des habitants de la zone affirment avoir assisté à l'opération. Avant le communiqué de la police, des vidéos circulaient dans les réseaux sociaux montrant des hommes en civil en exercice apparenté à ceux de l'armée. Ils semblaient être encadrés par des hommes en uniforme de la garde présidentielle. L'opération du démantèlement du groupe s'est faite sur ordre de la haute hiérarchie, assure le commissaire de la police de Kinshasa.
La Minute Éco, John Linden.
La Banque africaine de développement a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait réélu Akinwumi Adesina pour un deuxième mandat de 5 ans à la présidence de la BAD. La banque basée à Abidjan a procédé au vote pour reconduire Adesina lors de sa réunion annuelle de jeudi qui se tient par liaison vidéo. Adesina, qui se présentait sans opposition, a obtenu 100% des suffrages exprimés. Il avait été innocenté en juillet de tout acte répréhensible. Le président sénégalais Macky Sall a demandé jeudi la prolongation en 2021 du moratoire de la dette africaine par le G20, justifiant cela par la nécessité de relancer l'économie du continent, très affaiblie par la crise sanitaire. Mi-avril, les pays du G20 avaient pris la décision inédite de suspendre jusqu'à la fin de l'année les remboursements de la dette des pays les plus pauvres, confrontés à une fuite de capitaux et aux chutes de recettes fiscales en raison de la pandémie de COVID-19. À titre d'exemple, M. Sall a rappelé que le taux de croissance de son pays, le Sénégal, projeté initialement à 6,8%, atteindrait au mieux 1,1% en 2020. L'économie des États-Unis reste saine, mais le chômage pourrait rester élevé pendant longtemps, en particulier dans les secteurs qui ont été les plus durement affectés par la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19, a indiqué jeudi le président de la Banque centrale. Ces secteurs sont notamment la restauration, les voyages ou encore l'hôtellerie.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a été rejetée par la commission électorale de la FIFA. Cette dernière a jugé irrecevable certains parrainages réunis par l'ancien capitaine des étalons. Il n'a obtenu le parrainage que de deux clubs de première division, alors qu'il en faut trois au minimum. Le dossier de Drogba présente bien trois clubs, dont le célèbre Africa Sport. Mais ce soutien n'a pas été validé parce que donné par son vice-président, et non le président qui a offert son soutien au président de la Ligue, Souris Diabaté. Même constat pour les groupements d'intérêt. Chaque candidat devait obtenir le parrainage d'au moins un des cinq groupes. Drogba n'a réussi à avoir ni le soutien de l'Association des anciens joueurs, ni de l'Association des joueurs ivoiriens en activité. Son dossier mentionne le soutien de l'Association des arbitres, mais là encore, le parrainage a été l'œuvre d'une personne qui n'a pas qualité pour engager juridiquement la MAF. Selon la commission électorale, seule la candidature de l'actuel vice-président sortant de la Fédération ivoirienne de football, Souris Diabaté, et celle d'Idriss Diallo ont été validées par la commission électorale de la FIFA. Les recalés ont 5 jours pour faire appel de cette décision de la commission. En Angleterre, le milieu de terrain international Gareth Barry, détenteur du record de matchs joués en Premier League avec 653 rencontres, va prendre sa retraite à 39 ans. Ont annoncé Manchester City et Everton, deux des clubs où il a évolué. Félicitations pour cette carrière magnifique et merci pour le temps passé avec les Toffees, a tweeté Everton alors que City lui a adressé, je cite, ses meilleurs vœux pour sa retraite. Ici, en NBA, les Los Angeles Lakers de LeBron James et les Los Angeles Clippers ont voté pour l'abandon de la saison NBA pour protester contre les tirs de la police sur l'Afro-Américain Jacob Blake. Les Lakers et les Clippers, les deux grands rivaux et favoris pour le titre NBA, ont exprimé ce souhait lors d'une réunion d'urgence impliquant toutes les équipes encore en lice dans les playoffs, selon The Athletics et Yahoo Sport. Selon ses organes de presse, les 11 autres équipes préfèrent poursuivre la saison. Cette réunion d'urgence s'est tenue consécutivement au boycott par les Milwaukee Bucks de leur match contre les Orlando Magic plus tôt. Une initiative soutenue par les autres joueurs des équipes qui devaient également jouer mercredi et qui a contraint la NBA à reporter les 3 matchs au programme. Le président américain Donald Trump a accusé la NBA d'être devenue une organisation politique. Plusieurs équipes de la Ligue professionnelle nord-américaine de football américain, NFL, ont décidé d'annuler leur séance d'entraînement hier en signe de solidarité avec Jacob Blake. Parmi elles, les Green Bay Packers, les Indianapolis Colts, les New York Jets et la Washington Football Team, nouvelle appellation des Red Skins.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloubia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président Donald Trump a donc formellement accepté jeudi soir pour un second mandat, clôturant la convention républicaine qui avait commencé lundi. Compte rendu de Yacouba Ouédraogo.
À moins de 70 jours de l'élection et face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans son pays, le président Donald Trump a promis un vaccin qui ne saurait tarder, selon lui. Depuis plusieurs jours, la ville de Kenosha, dans le Wisconsin, où un jeune Africain-Américain, Jacob Blake, a été grièvement blessé par des policiers, est le théâtre de manifestations et de violences. Bien avant, la mort de George Floyd, un autre Africain-Américain victime de brutalité policière, a entraîné des violences un peu partout aux États-Unis. Le candidat républicain soupçonne son rival de vouloir diminuer les pouvoirs de la police.
Ne vous y trompez pas, si vous donnez le pouvoir à Joe Biden, la gauche radicale va retirer les fonds au service de police partout en Amérique. Ils adopteront une législation fédérale pour réduire l'application de la loi dans tout le pays. Personne ne sera en sécurité dans l'Amérique de Biden.
Vantant son redressement de l'économie jusqu'à ce que le nouveau coronavirus la rabatte, M. Trump a demandé à ses concitoyens de choisir le 3 novembre entre le rêve américain qu'il dit incarné et un socialisme destructeur qu'il attribue aux démocrates.
À aucun moment auparavant,
les électeurs n'ont été confrontés à un choix plus clair entre deux partis, deux visions, deux philosophies ou deux programmes. Cette élection décidera si nous sauvons le rêve américain ou si nous permettrons à un programme socialiste de démolir notre destin chéri. Les élections décideront si nous protégeons les Américains respectueux des lois ou si nous laissons libre cours aux violents agiteurs anarchiques et aux criminels qui menacent nos citoyens.
Nous allons construire la plus forte économie de l'histoire, a promis Donald Trump.
Le Cameroun a bloqué les exportations de céréales vers le Nigeria, y compris celles de mil et de maïs pour assurer une meilleure sécurité alimentaire, après une baisse de la production. Les autorités ont imputé cette baisse de la production à sa frontière nord, à la menace des terroristes de Boko Haram. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
Damian Kinko, qui travaille pour l'unité de contrôle alimentaire du ministère camerounais du commerce, l'affirme. Environ 6 000 tonnes de maïs, de mil et de riz ont été interceptées pendant leur transport vers le Nigeria. Et ces stocks ne seront restitués par le ministère que lorsque leurs propriétaires s'engageront à vendre leurs céréales au Cameroun exclusivement.
Quand nous voyons ces marchandises, nous les saisissons et les apportons ici. Cela a été fructueux. Nous avons environ 2000 sacs de riz. Nous sommes allés à Maroua puis à Ngaoundéré. Alors quand vous vous rendez dans nos entrepôts, ils sont pleins.
Des stocks de céréales ont été interceptés cette semaine dans plusieurs villes et villages frontaliers du Nord, notamment à Maroua, à Mora, à Kolofata et à Limani. Yacoubou Ousmaïna, président de l'association des cultivateurs de millet de Mora, confie qu'il préfère vendre uniquement au Nigeria.
Le problème qu'on a cette année, n'est-ce pas? D'abord, le problème de manœuvrage. D'abord, les manœuvres qui viennent de loin, là, qui pour venir nous aider là, nous n'avons pas ces manœuvres, vous voyez. Et en plus aussi, il y a aussi les prix des engrais sont trop élevés. Ça, ce sont des difficultés qu'on a, oui, oui.
Monsieur Ousmaïna affirme qu'un sac de 50 kilos de millet et de maïs se vend entre 40 et 50 dollars au Cameroun et entre 70 et 75 dollars sur les marchés voisins du nord du Nigeria. Il dit avoir supplié le gouvernement camerounais d'accorder des subventions aux agriculteurs pour rentabiliser la production céréalière. Lundi dernier, le Cameroun a annoncé une interdiction temporaire d'exportation de maïs et de mil. Pour Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun qui borde le Nigeria, l'interdiction vise à assurer la sécurité alimentaire de sa population.
C'est l'exportation massive. Le sorgho, le mil sont interdits d'exportation jusqu'en novembre. Mais s'agissant des paddy, nous avons demandé aux uns et aux autres de le faire, mais en travaillant d'un commun accord avec la douane.
Le gouverneur Miji Yawa a déclaré que la production avait chuté de manière drastique à cause du terrorisme de Boko Haram qui a chassé les agriculteurs de leurs champs. Cependant, selon lui, les exportations vers le Nigeria ont augmenté lorsque le Cameroun a initié la réouverture progressive de ses frontières qui avaient été partiellement fermées en raison du conflit Boko Haram en février. Pour l'économiste Ebenezer Djok de l'université de Yaoundé 1, le déficit céréalier du nord du Cameroun est désormais de 200 000 tonnes. Un déficit susceptible d'augmenter si les quelques agriculteurs qui sont revenus sur leurs terres ne sont pas encouragés par le gouvernement.
Avec l'objectif que l'État a signé de produire 600 000 tonnes en 2025, alors qu'à ce moment on est autour de 300 000 tonnes, vous comprenez que le gap est encore assez important. Les gens ne sèment pas à temps, donc ça a un impact sur la productivité même en champ. Au-delà de ce problème, il y a la baisse de la fertilité des sols, parce que c'est des sols qui sont exploités sur de nombreuses années et donc qui s'épuisent.
Les autorités camerounaises affirment qu'elles fournissent des semences et des engrais de bonne qualité à coût réduit pour encourager les agriculteurs à revenir dans les fermes abandonnées. L'État assure également la sécurité des civils, disent-elles. L'armée, de son côté, affirme que les attaques de Boko Haram ont été considérablement réduites.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Coup de théâtre jeudi à Abidjan où la candidature de l'ancien international Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a été rejetée pour n'avoir pas réuni suffisamment de parrains comme l'exige le règlement de la fédération. La commission électorale de la fédération a jugé irrecevables les parrainages réunis par Drogba, notamment ceux de l'Africa Sport et de l'Association des arbitres de Côte d'Ivoire. Ma Camara a recueilli les réactions de quelques fans ivoiriens de foot.
Non, vraiment, ce matin, vraiment, je suis tellement dépassée. Bon, j'ai appris la nouvelle, ce que vraiment, ça me fait mal au cœur. Franchement, Didier Drogba, c'est un monsieur qui est bien. Grâce à lui, dès que quand tu arrives dans les autres pays, quand tu dis oh, je viens de la Côte d'Ivoire, on dit non, Côte d'Ivoire c'est où? On dit non, tu connais pas le joueur Didier Drogba? On dit oh oui, c'est Didier Drogba. Ah, c'est bien, j'aime la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, on nous reconnaît quoi.
J'ai appris ça au mois de midi. Vraiment, je suis déçu. En tant qu'un bon Ivoirien, je pense bien que quelqu'un t'a prouvé à l'international. C'est le moment de le laisser prouver au niveau de son pays. Moi, je suis vraiment déçu.
Franchement, moi, mon grand souhait, nous allons lui donner au moins cette dernière chance. Si ça n'a pas marché, on programme pour une autre personne. Parce qu'il a été un bon joueur. Il a été un leader pour nous, pour le football. Maintenant, quand lui-même il veut prendre la chose en main, on bénit Dieu pour qu'au moins Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous pour nous donner encore une fois la coupe pour réconcilier tous les Ivoiriens.
Au niveau de le président de la Fédération Ivoirienne de football, ils ont des textes. Il y a des papiers qu'on doit remplir pour être président. Ils savent pourquoi ils ont rejeté. Nous sommes au dehors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais si ces papiers ne sont pas complets, et s'il n'a pas le droit, si c'est pas réglé, on ne peut pas le droit. Donc nous, vraiment, on ne sait pas. C'est eux qui savent, c'est eux qui organisent. Ils savent pourquoi ils ont rejeté la candidature de Drogba.
C'est quelque chose qui est absurde, ce n'est pas normal. Voilà, nous disons non. Il faut que la commission électorale de la FIF soit un peu crédible, qu'il soit réaliste. Voilà, pour ne pas qu'il fasse les choses un peu tordues. Voilà, tout le monde entier les regarde. Non, moi, je trouve que ce n'est pas normal.
Concernant la candidature de M. Drogba à la Fédération ivoirienne de football, vraiment, moi, je ne peux pas comprendre quoi. Comment une icône comme ça, dans ce pays-là, hein, qui, je ne sais pas, a joué le football sur plusieurs terrains dans ce monde, et puis qui vient pour chercher à changer un peu quelque chose dans le football ivoirien, les gens s'opposent à sa candidature. Moi, vraiment, je ne suis pas pour ça.
Il n'y a pas à faire du tapage autour, c'est la démocratie. Hein. Je pense que en matière de démocratie, il faut accepter. Il faut accepter la défaite. Oui, c'est mon point de vue, c'est la défaite. Il faut accepter les défaites.
Non, c'est au départ.
Oui, ça m'a dit, c'est
très bon. Ouais, ouais, ouais.
Des fans de foot ivoiriens au micro de ma camarade à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, les blessures infligées à l'Africain-américain Jacob Blake par un policier blanc à Kenosha dans le Wisconsin ont ravivé les braises de la colère antiraciste et nourrit un mouvement de boycott dans le monde sportif. Après la décision des joueurs de basket des Milwaukee Bucks de boycotter un match, la NBA a dû reporter plusieurs rencontres mercredi et jeudi. Elle a toutefois espéré pouvoir reprendre le cours des compétitions vendredi ou samedi. La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a refusé un temps de disputer la demi-finale du tournoi de Cincinnati, dont les organisateurs ont reporté d'un jour tous les matchs prévus jeudi. Des matchs de football et de baseball ont également été reportés. Pour une réaction, Bagasikura a joint dans le Maryland Eugène Pewa Peleba, président d'Africa Education Sport, qui connaît bien la NBA.
Les joueurs, la plupart NBA dans le sport en général, sont des joueurs noirs. Et ce qui se passe aux États-Unis depuis assez longtemps maintenant, il y a des violences policières envers les noirs en particulier, comment les noirs sont traités. Et le dernier, c'est un événement qui s'est passé dans le Wisconsin où ce jeune noir américain a été tiré dans le dos cette fois par un policier et cela ne justifiait en rien qu'on lui tire dessus de cette manière. Donc cette injustice sociale qui se passe, comment on les traite, ont poussé les noirs, les joueurs, que ce soit dans le basketball, que ce soit dans le tennis, puisqu'on a vu la jeune Osaka qui refuse de jouer aujourd'hui, elle accepte de perdre le match pour être solidaire à cette cause. Il en est de même pour les joueuses de WNBA.
Oui, on parle même de l'annulation totale de la saison, notamment à NBA.
Oui, c'est une possibilité. C'est ce que moi j'ai entendu aussi. Et je pense qu'il y aura des discussions au niveau de la NBA, les joueurs vont discuter.
Alors, on sait qu'il y a quelques années, ça avait commencé dans le football américain avec Kevin Kaepernick.
Mais oui, Kevin Kaepernick, lors des matchs de football américain, notamment au jeu de l'île nationale, il avait sa manière de faire les choses. Il s'agenouillait, il mettait un genou par terre, il s'agenouillait pendant l'île nationale. Et les gens avaient trouvé ça comme étant une insulte, un manque de patriotisme, ce qui ne rend pas la cause. Je pourrais dire que ce n'est vraiment pas ce qu'il cherchait à faire. Son but était de faire comprendre qu'il n'était pas normal que des Noirs américains qui ont contribué au développement de ce pays à tous les niveaux, depuis l'esclavage ou dans toutes sortes de découvertes, soient et continuent d'être traités comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. Et je pense que Kaepernick avait commencé ce mouvement et les faits aujourd'hui lui donnent raison.
Est-ce que vous pensez que cela pourrait faire effet boule de neige et toucher aussi le football en Europe notamment, où il y a beaucoup plus de noirs aussi?
Mais on a vu avec l'événement de George Floyd, comment dans le monde entier, il y a eu cet effet justement domino, où tous les pays... Il y a eu ce Black Lives Matter movement qui a enflammé dans l'ensemble du monde.
C'était Eugène Pewa Peleba, président d'Africa Education Sports. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.